Ça peut partir en sucette à n'importe quel moment, là, cette histoire. D'accord?
Les 400 coups. L'émission ciné des 400 coups.
De 17h30 à 18h.
Tous les premiers mercredis du mois sur Radio Campus.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les 400 coups, l'émission radio des cinémas les 400 coups. Bienvenue sur les ondes de Radio Campus Angers sur le 103 FM. Salut Cécile, comment ça va ?
Eh bien ça va très bien Georges, surtout que j'ai pu récemment rencontrer un réalisateur que j'affectionne tout particulièrement et notamment pour son film Before Sunrise qui est l'une de mes romances préférées.
Un invité d'exception était présent au 400 coups le week-end dernier. Alors si je vous cite des films tels que Before Sunrise, comme tu l'énonces à Cécile, mais aussi le reste de cette trilogie à savoir Before Sunset et Before Midnight, le documentaire Boyhood ou encore la teenage comédie Rock Academy, pardon, vous reconnaissez ?
Il s'agit du réalisateur Richard Linklater qui nous a fait le plaisir de venir présenter au 400 coups son nouveau film qui sortira prochainement. Malheureusement, nous n'avons pas encore de date communiquée. Le film était initialement prévu en 2023.
Sans plus attendre, le sommaire de cette 7e émission. En première partie, comme vous avez pu le deviner, nous reviendrons donc sur le parcours de Richard Linklater.
Suivi d'une interview exclusive du réalisateur qui nous fera partager sa vision du cinéma et nous dira quelques mots sur son prochain film. Et puis nous avons vu Civil War, le nouveau film d'Alex Garland, on vous en parle.
Et nous terminerons par notre petit récap habituel des sorties ciné de ce joli mois de mai et de nos événements à ne pas manquer. Et ça se passe sur les très belles ondes de Radio Campus Angers 103 FM.
Alors Richard Linklater, pour ceux qui ne connaissent pas, il a démarré sa carrière dans les années 80, mais s'est surtout fait révéler par sa trilogie Before, comprenant comme on le disait tout à l'heure Before Sunrise, Sunset et Midnight, avec en tête d'affiche le joli duo Ethan Hawke-Julie Desplis, une romance en trois films sortie entre 1995 et 2013, un intervalle de 9 ans donc pour mettre en scène un couple à trois périodes de leur vie, la découverte, l'exploration puis la perte.
Et puis bien sûr Boyhood, sorti en 2014, film multi-récompensé. Richard Linklater filme ici ses acteurs sur une période de 12 ans pour raconter l'évolution naturelle d'une famille et capturer le passage du temps avec une authenticité rarement vue au cinéma. Le film suit la vie de Mason, de l'enfance à l'âge adulte, incarné de manière impressionnante par Hélier Coltrane, dont la performance évolue naturellement avec son âge. On retrouve également Patricia Arquette et Ethan Hawke, qui jouent les parents de Mason. Patricia Arquette, qui reçut l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, livre une prestation incroyable. Son rôle de mère qui traverse des défis personnels et professionnels est remarquable d'authenticité. Boyhood est un véritable défi filmique et narratif, mais surtout un bouleversant témoignage du passage du temps qui nous engage avec beaucoup de pudeur et de sensibilité dans une réflexion sur notre propre vie, à découvrir ou à redécouvrir.
Yeah.
venez d'écouter Apple Speeches Pumpkin Pie du groupe Jay and the Technics et extrait de la bande-annonce de Hitman, le tout nouveau film de ce très cher Richard Linklater. Avec au casting Glenn Powell et Adria Arjona. L'histoire d'un policier de Houston qui travaille sous couverture comme tueur à gages et rompt le protocole pour aider une femme désespérée qui tente d'échapper à un petit ami violent. Mais qui de mieux pour nous parler de son film que le réalisateur lui-même ? Elisa, notre collègue préférée, est partie à la rencontre de Richard Linklater. Un très très grand merci pour la traduction de l'interview par Bernard Reeves. Extrait.
Alors bonjour Richard Linklater, merci d'être avec nous ici au 400 coups. Je suis très heureuse de vous rencontrer et de pouvoir vous poser quelques questions. Alors vous êtes un véritable homme orchestre dans le cinéma, fondateur et directeur artistique de l'Austin Film Society, scénariste, producteur, réalisateur. Ma question, c'est comment êtes-vous tombé amoureux du cinéma ?
Eh bien, c'est une bonne question. Donc, c'est super d'être ici aujourd'hui. C'est la première fois que je viens dans cette salle dont j'entends parler énormément depuis des années. Et on est fiers, en tant que Austin Film Society, on est fiers d'avoir cette relation. Et c'est bien d'avoir une ville jumelle. Mais pour répondre à la question, quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai commencé à regarder sérieusement des films. J'ai découvert le cinéma. Et jusque-là, en fait, je pensais que j'allais être romancier ou dramaturge. J'écrivais. Mais quand j'ai vu que ce que j'avais dans la tête, c'était du cinéma, c'était là où je suis devenu fou du cinéma. Je regardais 600 films par an, je lisais tous les livres là-dessus. Ça, c'était il y a 40 ans. Donc, j'ai lancé cette société de cinéma pour des raisons égoïstes, parce que je voulais voir tous les films que je n'avais pas vus. Et donc, c'était le public qui m'aidait en payant pour voir les films aussi. Mais j'ai découvert quelque chose de merveilleux, c'est que la communauté autour du cinéma, c'est merveilleux. C'est vraiment des gens formidables. J'adore les cinéastes, j'adore les gens qui sont des cinéphiles. C'est comme un univers parallèle. Et on choisit de vivre dans cet univers. Et donc, là, je voulais écrire, je voulais réaliser. Mais en parallèle, je voulais montrer des films et faire en sorte que les films soient vus. Donc c'est ça où se trouve mon cœur, en fait. C'est le cinéma en général. Mais c'est l'idée de la culture autour du cinéma. Mais j'admire énormément la nouvelle vague en France, parce que c'était des gens qui aimaient le cinéma, ils vivaient le cinéma, ils écrivaient sur le cinéma. C'est un très bel exemple. Et si on regarde autour du monde, les gens qui ont fait ça, les gens, ils ont fait ça depuis toujours, mais eux, ils ont fixé un ton en quelque sorte, ils ont donné l'exemple.
Alors, votre cinéma est anticonformiste et va à rebours d'une société qui va trop vite. C'est quoi votre recette pour rester à contre-courant ?
Alors, quand je me suis dit que j'allais faire des films, je ne savais pas quel genre de film j'allais faire. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de dialogue avec mes personnages. Et je voulais exprimer des choses à travers les acteurs, les comédiens. Donc il y avait beaucoup de dialogue. Et les gens aux États-Unis, ils me critiquent parce qu'ils disent que je suis trop européen. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Mais j'aime bien les films commerciaux américains, comme tout le monde. Mais mon cerveau ne fonctionne pas comme ça. Donc mes personnages ne rentrent pas dans ces cases. Donc je suis en guerre avec les structures narratives du cinéma commercial classique. Je dois m'intéresser à l'histoire et comment la raconter. Et ça peut être compliqué parfois. De trouver les financements, ça peut être difficile, et ça peut être difficile de faire certains films.
Alors, l'évolution de vos personnages, de leur identité à travers le temps, est au cœur de votre cinéma. Est-ce que c'est un choix conscient ?
J'ai fait beaucoup de films où je montre des gens qui sont en train de chercher qui ils sont. Donc, que ce soit Boyhood, c'est l'exemple le plus flagrant, en fait. On voit quelqu'un qui grandit. Mais d'autres films, j'ai des jeunes, en fait, qui essaient de voir quelle est leur place dans le monde. Donc, c'était des années très intenses pour moi, je m'en souviens bien. Mais même dans mon nouveau film, Hitman, le type, il est dans sa trentaine, mais il dit, qui suis-je? Est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que le moi? C'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose de construit? Et puis, il enseigne ça aux étudiants. Donc, cette idée que nous sommes fixés, nous sommes figés, c'est quelque chose qu'on peut discuter. J'ai des questions éternelles, je reviens à ces questions en permanence. Et ce sont des questions basiques, en fait. Et on n'a pas forcément de réponse.
Alors, est-ce que le cinéma d'auteur américain a toujours un impact culturel, comme il a pu l'avoir à vos débuts, dans les années 80-90?
Non, les films sont vus, on fait des films, il y a des choses qui n'ont pas changé. Mais ce n'est pas uniquement aux États-Unis, mais globalement. On doit voir quelle est la place du cinéma dans l'imaginaire culturel. Donc ça a changé, je crois. Mais pas que des films indépendants, hein. Donc le film en général, le cinéma en général. C'est un peu déprimant parfois de voir Hollywood, qui n'a jamais été merveilleux, mais ça donnait un certain ton. Et donc ils ont arrêté avec les histoires d'adultes, en fait. Et je savais que quand il y avait l'univers Marvel qui arrivait, je savais que c'était pas le bon chemin, comprenez. Donc moi j'étais gamin, les films que je regardais c'était des films pour adultes. Et je savais que je ne comprenais pas exactement ce qui se passait. Mais je pouvais avoir des aspirations. Il y avait d'autres mondes que j'anticipais à habiter. Il y avait des questions sur des relations entre adultes. Et donc c'était une inspiration de voir ça quand j'étais jeune. Personne faisait des films pour moi. Ils ne faisaient pas des films pour des gamins. Bon, bien sûr, il y avait quelques-uns, mais les films, c'était des objets pour des adultes. Alors maintenant, ils ont inversé ça. Les films sont fabriqués pour une mentalité d'un garçon de 13 ans, quoi. Surtout un garçon. Et toute la culture a été réduite à ce niveau. Même la culture adulte est descendue. Donc moi, quand j'étais gamin, moi je montais vers la culture d'adulte. Là maintenant, c'est la culture des adultes, en fait, qui revient vers les enfants de 13 ans. Et donc ils prennent ça au sérieux aussi. Il y a les critiques qui en écrivent plein de choses. Donc ils doivent le prendre au sérieux et tout. Mais le monde des indépendants, ça continue, on continue à faire ce qu'on fait.
Vous pensez qu'il y a un impact quand même des plateformes sur le cinéma indépendant?
Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'ils financent des films qui ne sont pas faits à Hollywood. La mauvaise nouvelle, c'est que, en fait, ça apparaît sur la plateforme, quoi. Apollo 10,5 que je montre maintenant. Là, j'étais reconnaissant à Netflix de me donner le budget. Ils ont aimé le scénario, ils voulaient faire un film avec moi, donc j'étais reconnaissant. Mais les algorithmes ne l'aimaient pas. Voilà. Parce que ça se passe en 69, donc il y a des mères de famille qui fument. Donc l'algorithme nous a supprimé de certaines catégories. Donc c'est pas une histoire familiale, c'est pas telle ou telle catégorie, quoi. Donc on est distribué par l'ordinateur. Il n'y a pas un être humain qui est là derrière. Et si vous posez une question, si on pose une question, on dit oh ben c'est les algorithmes qui font ça.
Vous tournez actuellement votre prochain film Nouvelle Vague à Paris. Heureuse coïncidence pour vous poser cette question ici au 400 coups. Pouvez-nous en dire un peu plus? C'est un mouvement qui a influencé votre cinéma?
Oui, oui, bien sûr. Donc la nouvelle vague a influencé le monde entier, le monde cinématographique, même si ce n'était pas des films qui ont forcément marché au box-office, quoi. Mais culturellement, ils ont eu un impact énorme. Et c'est formidable d'être ici, dans cette salle, parce que je ne devrais pas en parler, parce que je viens tout juste de terminer le tournage. Mais je recrée le moment de l'avant-première des 400 coups, du film Les 400 coups au Festival de Cannes. On voit juste un petit bout de... Il y a Jean Cocteau qui est assis à côté de Truffaut, il y a Jean-Pierre Léo qui est là, et Godard, il fait partie du public. Et il est très impatient, il est très jaloux, parce que lui, il veut faire son film, lui. Donc ça commence là, et puis... Mais il y a tout le monde, en fait. Donc, en fait, c'est comme si on traînait avec la nouvelle vague. C'est pas une grande histoire, mais en fait, on est là, on traîne avec eux, il y a Cahiers du cinéma, il y a tout ça. Donc c'était marrant à faire. Donc c'était plus comme une séance de spiritisme, en fait, donc pour faire revivre toutes ces personnes. Et ils étaient tellement contents de se retrouver à nouveau. C'était les bonnes années. Donc ils levaient les têtes. Ah, il y a Romère, il y a Truffaut, il y a Rivette, il y a Truffaut. Ils sont tellement contents, ils sont heureux d'être à nouveau ensemble. Les bonnes années, quoi. Le bon vieux temps.
Merci beaucoup, Richard Linklater, d'avoir répondu à nos questions. Plein de belles choses pour la suite. On a hâte de découvrir vos prochains projets sur grand écran. Merci à vous.
Le 4 juillet.
C'est pas vrai.
Montez dans la voiture! Montez dans la voiture!
Allez, allez, allez!
Restez en dehors de ça.
C'est hors de question.
Une seule nation, sous l'autorité de Dieu, indivisible, avec la liberté et la justice pour tous. Que Dieu bénisse l'Amérique.
Et comme on vous le disait dans notre podcast précédent, nous allons bel et bien sortir le nouveau Alex Garland dont vous venez d'écouter la bande-annonce. Civil War est une course effrénée à travers une Amérique fracturée qui, dans un futur proche, est plus que jamais sur le fil du rasoir. C'est à partir du 8 mai dans votre ciné préféré et nous avons eu la chance de le voir pour vous en parler. Alors Cécile, ce Civil War, tu en penses quoi ?
Ben, je suis assez mitigée. J'admets que je ne sais pas trop quoi penser du film. J'ai passé un bon moment, c'est certain. J'ai été en tension tout le long du film. Alex Garland ne nous laisse aucune minute de répit, pas un moment pour prendre sa respiration. Excepté un petit aparté lors d'une scène de voiture, mais qui n'en est paisible que pour accentuer de plus belle l'atrocité de la guerre. Cependant, cette atrocité n'est selon moi pas assez mise en avant, puisque beaucoup de scènes sont esthétiquement, très jolies, beaucoup trop jolies pour son sujet. Le film parle finalement plus du métier de journaliste de guerre et de ses méfaits que de la guerre civile en tant que telle, qui est selon moi assez mise en fond et ne survole jamais plus qu'un simple contexte. Petite réflexion donc à avoir quant au titre. Point positif en revanche, la fin, on termine sur une phrase adéquate, en raccord avec son sujet et ce qu'il dénonce. Et toi, Georges ?
Eh bien, j'avoue avoir été un peu déçu après la projection. J'ai eu du mal à comprendre quel film a voulu réaliser Alex Garland. Je m'attendais à un film plus politique, avec plus d'épaisseur. Le scénario est quand même très très mince. C'est une sorte de dystopique constat. La guerre civile est un fait, presque un prétexte, et son sujet est ailleurs. Une réflexion sur le journalisme et la production d'images et de contenu à n'importe quel prix, ce qui nous renvoie d'ailleurs à notre propre voyeurisme. Alors c'est pas inintéressant, mais quand on a assisté médusé à la prise du Capitole et que l'on attend avec une pointe d'inquiétude et de fébrilité les prochaines élections américaines, c'est peut-être un petit peu court. Il y a pourtant une scène qui nous renvoie à cette fracture idéologique et politique très attendue, avec l'incroyable Jesse Plemons. Bon, pas de spoil évidemment, mais je trouve que cette scène, elle redimensionne le film. Ceci dit, les scènes de combat immersifs sont impressionnantes, et la BO de Ben Salisbury et Gough Barrow, compositeur fétiche d'Alex Garland, est une vraie réussite. Bref, Civil War reste un film qui questionne et qui ne laisse pas indifférent, ce qui est déjà plutôt pas mal, à découvrir donc aux 400 coups à partir du 8 mai.
Et pour cette dernière partie d'émission, notre petit récap des actualités du mois. Alors Georges, il se passe quoi en mai aux 400 coups ?
Eh bien Cécile, on commence très fort avec tout simplement le prochain film de Quentin Dupieux. Et oui, encore lui, il ne chôme pas le Quentin. Une avant-première d'exception, puisque ce long métrage, bien qu'il ne fasse qu'1h25, fera l'ouverture du Festival de Cannes 2024, rien que ça. Le deuxième acte, c'est le titre du film. Un casting bien évident rocambolesque avec Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel ou encore Raphaël Quenard, le dernier chouchou de la bande à Dupieux.
Et je ne vais pas te cacher, Georges, que c'est également mon chouchou depuis Chien de la Casse que je vous conseille fortement. On le voit partout pour notre plus grand plaisir. Le deuxième acte, c'est en avant-première au 400 coups le mardi 14 mai à 20h.
Et pour ceux qui préfèrent un bon film de 3 heures avec des mafieux qui règnent sur Las Vegas, on vous propose également, ce même jour à 20h, notre dernier plan culte de la saison. Et quel plan culte, Cécile ?
Et oui, puisqu'à l'honneur, notre petit Scorsese derrière la caméra, Casino en réédition version restaurée. Un casino de la vengeance, de l'arnaque, de la drogue et des règlements de compte, tout ce qu'on aime, attention, interdit au moins de 12 ans.
Et toujours dans cette idée de vengeance, Park Chan-wook l'a bien compris, avec sa trilogie que nous rediffusons lors d'une catégorie dans le rétro. Trois films à l'honneur donc, Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy et enfin Lady Vengeance. Et c'est à partir du 22 mai dans votre ciné préféré.
Vengeance, c'est le maître mot de ce triptyque déjanté que nous livre le réalisateur. Au programme, un homme se venge de l'homme responsable de la mort de sa fille, un autre veut se venger de celui qui l'a enfermé pendant 15 ans, et une femme se venge du meurtrier à la place duquel elle a fait de la prison en voulant le livrer à ses victimes pour qu'elle se venge.
Furiosa ! On est allé trop loin !
Des courses de bolides déjantées, de la grosse mécanique à fond et des déserts à n'en plus finir, c'est le grand retour de la saga Mad Max. Toujours réalisé par le génial George Bay Miller, mais cette fois-ci, nous suivons les aventures de la jeune Furiosa.
Et alors que le monde s'écroule, la jeune Furiosa tombe entre les mains d'une horde de motards dirigée par le seigneur de la guerre, Demantus. En traversant le Westland, il tombe sur la citadelle présidée par l'immortan Joey. Alors que les deux tyrans se battent pour la domination, Furiosa doit survivre à de nombreuses épreuves pour trouver le moyen de rentrer chez elle. Retrouvez Anna Taylor-Joy et Chris Hemsworth, pas facile à dire, le 22 mai sur nos écrans.
Et puis Eratum, dans notre précédente émission, nous vous avions annoncé la sortie de When Evil Lurks, le petit film d'horreur argentin bien méchant. Sa sortie est finalement décalée au 15 mai au lieu du 17 avril.
Voilà, l'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Bien sûr, vous retrouverez notre programmation et tous nos événements sur www.les400coups.org et sur nos réseaux sociaux. D'ici là, courez dans les salles. On se retrouve le mois prochain sur Radio Campus Angers sur le 103 FM.
Salut Cécile.
Salut Georges. Et merci pour la technique.
Les 400 coups.
Une émission à retrouver en podcast sur www.radiocampusangers.com.